Bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture consacrée aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Depuis nos studios de la Maison de la Radio à Paris, nous pouvons encore entendre la foule hystérisée qui a accueilli à quelques kilomètres d'ici le milliardaire Elon Musk au salon Vivatech à la porte de Versailles, un salon international qui regroupe les passionnés et les entrepreneurs du monde nouveau. Et bien nous, dans Le Meilleur des Mondes, nous accueillons également un éminent citoyen de la Silicon Valley, mais c'est un penseur critique, Fred Turner, le professeur de communication de Stanford, de passage en France, est notre invité à l'occasion des 10 ans de l'apparition française de son livre de référence aux sources de l'utopie numérique, de la contre-culture à la cyberculture. Pas si étonnant qu'il ait choisi France Culture. À ses côtés, nous allons revenir sur les origines politiques et culturelles de l'Internet, sur la figure de Stewart Brent, personnage clé pour comprendre les mystères de la vallée. Nous comprendrons un peu mieux les valeurs des néo-communalistes issus de la contre-culture américaine des années 60. L'importance du LSD aussi pour rechercher un éveil des consciences, et nous interrogerons également les liens entre la nouvelle droite et les technophiles néo-communalistes. Voici quelques lignes directrices de notre voyage du soir. Fred Turner, bonsoir.
Oh, bonsoir, thank you for having me.
Merci de m'avoir invité.
Merci d'être avec nous, surtout. Nous savons que votre temps en France est précieux. Après une décennie de journalisme, vous êtes aujourd'hui professeur de communication à l'université de Stanford. Après être passé par le MIT, aux sources de l'utopie numérique, de la contre-culture à la cyberculture, a été publié il y a 10 ans aux éditions CF, qui en profitent pour publier un florilège de contributions de chercheurs et journalistes qui reviennent sur votre influence, sur leurs travaux et leur vision du numérique. Nous sommes donc très heureux de pouvoir en cette fin de saison relire avec vous le passé de l'Internet tout en se projetant vers les enjeux du futur. Au programme également, les nouvelles du meilleur des mondes et la chronique de Juliette Deveau qui quittera un instant la Silicon Valley pour l'Inde. Notre émission s'écoute en direct ou en podcast sur l'application Radio France et se regarde toujours sur la chaîne Twitch de France Culture. Le meilleur des mondes avec Fred Turner, c'est parti.
Internet, oh, je sais pas.
Système informatique, de communication, c'est les nouveaux autoroutes de l'information.
Voilà. Vous voyez, il est intelligent, mon copain.
Interco.
Été 67, San Francisco, Summer of Love, le climax de la culture hippie. C'est juste après qu'ils vont tous dans les forêts, et c'est vraiment les mêmes qui, quelques années plus tard, vont dire on a un autre lieu, on a un autre territoire pour faire communauté, pour réinstaller ce qu'on n'a pas su faire dans le monde réel, qui est le territoire virtuel. L'informatique, c'est tout comme le LSD qui prenait par ailleurs, c'est la même chose, ça augmente l'esprit.
Donc l'idée est de garantir l'accès à l'information pour tous et qu'il y ait moins de concentration du pouvoir.
Ce qui nous unit, c'est le partage. C'est la notion de partage. C'est comme ça que c'est conçu par les militaires américains et finalement, c'est comme ça que c'est détourné par la suite, à un moment donné, par les universitaires américains, puis par des gens comme nous, et puis maintenant par la planète entière.
Internet, needs to be Internet a besoin d'être un endroit dédié à la liberté et non au contrôle. En ce moment, les gouvernements s'intéressent à Internet, mais pas de la bonne façon. Je crois qu'il y a beaucoup de pression pour le contrôler. Et je pense que ça sera un problème majeur dans les 5 à 10 années à venir.
Alors, expliquez-nous, Fred Turner, en quoi vous vous voyez comme un anthropologue dans la Silicon Valley, puisque je rappelle que vous vivez à l'année en ce moment là-bas.
Oui, je vis dans la Silicon Valley. Mes valeurs, mes idées viennent de Boston, où j'étais journaliste longtemps. Et ces idéaux, ces idées sont plus françaises que californiennes. Mais j'ai une carrière en Californie. Et je passe tout mon temps avec des tech, avec des innovateurs, des entrepreneurs et quelques universitaires. Mais je vis avec ma tribu.
Vous vivez avec votre tribu et en même temps dans un environnement en plein milieu des GAFAM. C'est pour ça que vous êtes un peu en voyage constant par rapport à l'objet de votre étude.
Oui, j'habite à 3 km du quartier général de Google et je peux voir là des choses qui sont très difficiles de voir ailleurs. Je peux voir la présence de la contre-culture et de ses idéaux. Je peux voir la droite et des idées qu'on pourrait qualifier de répréhensibles. Ce serait très, très difficile de les faire entendre ici, mais je les entends tous les soirs à Silicon Valley. Et je vois les technologies avant qu'elles voyagent. Les voir, c'est bien, mais être rafraîchi par un point de vue critique, eh bien, il faut que je vienne à Paris pour ça.
Voilà, c'est ça. Vous voyez les technologies avant qu'elles voyagent. Et vous, vous avez voyagé jusqu'ici justement pour nous parler des technologies. Lorsque vous publiez votre livre, je parlais de sources de l'utopie numérique en 2006, quel est l'état de la recherche sur la Silicon Valley? Parce que vu d'ici, en plus, on a beaucoup de mythes, de fantasmes autour de la Silicon Valley. Mais même aux États-Unis, est-ce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient écrites? Comment la Silicon Valley était documentée?
Il y a 10 ans, on commençait à documenter la Silicon Valley. Les acteurs, les entrepreneurs sont totalement concentrés sur le business, les affaires. Et un de mes rôles était de commencer à être un historien de la culture d'un lieu qui n'avait pas d'histoire, ni de culture d'ailleurs. Et mon livre sur la contre-culture a pu le faire. Et les gens étaient très critiques de ce que j'ai dit dans le livre, mais ils m'ont bien accueilli. C'est une culture où la critique est la bienvenue. Donc j'ai pu vraiment aller très très loin.
Alors vous dites justement que vous avez été estomaqué lorsqu'on vous avait dit que la contre-culture était anti-technologique. Et ça, ça vous a incité justement à creuser.
Je suis allé en Californie pour la première fois il y a 25 ans et j'ai lu Wired Magazine, le magazine Wired, parce que dans les années 90, il y avait des dessins psychédéliques et je viens de finir un bouquin sur la façon dont les États-Unis voyaient la guerre du Vietnam. Et pendant cette guerre-là, les ordinateurs, c'était vraiment les outils grâce auxquels on bombardait les Vietnamiens et j'avais aucune idée à quel point les hippies et anti-tech devenaient tous et lisaient tous Wire Magazine. Et j'ai trouvé une réponse. Et la réponse, c'était que les enfants des années 60 étaient amoureux de la technologie. Pas simplement la grosse technologie. Ils ne voulaient pas la technologie militaire, ni la technologie industrielle, mais ils voulaient du LSD, ils voulaient des stéréos et des guitares électriques.
Ça, c'est très intéressant, cette distinction, parce qu'on voit que la technologie était perçue comme une puissance militaire ou une puissance étatique, comme le pouvoir. Et là, vous faites bien la distinction entre la petite technologie, celle qui est la technologie individuelle, qui va être le poste de radio, qui va être justement cette technologie du quotidien qu'on peut appréhender. Et c'est dans ce contexte-là, sans doute, que Internet va commencer à arriver et va être regardé positivement.
À la sortie des années 60, les ordinateurs étaient toujours considérés comme étant liés à la technologie militaire. Mais les hippies des années 60 et les communalistes ont imaginé un monde de conscience partagée, qu'on pouvait laisser la politique en arrière, qu'on pouvait prendre la technologie du monde mainstream et l'utiliser pour créer des nouveaux modes de communication qui allaient créer cette nouvelle société de conscience partagée. Dans les années 60, la technologie, c'était le LSD. Donc, on pouvait passer dans une commune, prendre de l'acide, et puis être dans le même état d'esprit que vos collègues. Il n'y aurait pas besoin de bureaucratie, il n'y aurait pas besoin de gouvernement. Le LSD, ça suffisait. Mais dans les années 1980, la contre-culture avait échoué à changer l'Amérique. Dans les grandes largeurs. Et les gens comme Stuart Brand, qui étaient des grands hippies, ont dit, attendez, mais peut-être c'était pas le LSD, peut-être que c'est l'ordinateur. Peut-être que c'est l'ordinateur qui peut nous donner cette conscience partagée. Et c'est là que l'idéologie de l'Internet comme un espace utopique est née.
Alors, on reviendra justement sur la puissance et l'importance du LSD, mais vous avez cité un terme communaliste, c'est pas un terme très commun, justement, en France. Et vous faites dans votre ouvrage une distinction majeure dans la contre-culture. Je devrais même dire les contre-cultures, parce que vous distinguez, on va dire, la nouvelle gauche, la new left, et les nouveaux communalistes. Donc il y a plusieurs contre-cultures. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner un périmètre, ces frontières?
Thank you for raising that. It's such an important point. C'est un point extrêmement important.
Because there are
at least two contre-cultures. Il y a au moins deux contre-cultures. Elles sont très différentes l'une de l'autre. Elles ne s'aiment pas. Dans les années 60, on avait la nouvelle gauche et ils faisaient de la politique pour changer la politique. Faire des manifestations contre la guerre du Vietnam, pour les droits civiques, etc. La contre-culture communaliste pensait que la politique, c'était ça, le problème. Ils ont dit, non, ne faisons pas de politique. C'est ce qu'ils font, eux. C'est ce que fait l'État. Si on veut changer le monde, il faut quitter l'Amérique du centre, construire des communes et pratiquer une vie différente. Et dans les années 60, à la fin des années 60, les trois quarts d'un million d'Américains, 750 000 Américains, sont partis vivre dans les communaux. C'était un gros mouvement. Et dans ces communs, on pouvait utiliser des technologies comme le LSD, comme la musique, pour quitter la politique et construire une société différente, une société fondée sur la communication principalement.
C'est intéressant parce que ça fait deux fois que vous nous dites que le LSD est une technologie. C'est sûr qu'on le voit pas forcément comme ça. C'est une technologie dans le sens où ça éveille les consciences, où il y a aussi une sorte de rencontre, de fusion entre le corps et l'esprit, et aussi peut-être là où il y a une communication. Et c'est en ça, on peut peut-être parler de technologie, c'est qu'il y a on devient réceptif, une communication qui circule, un corps qui fait corps même avec un autre. Donc on est presque dans un jeu de réseau grâce au LSD. C'est en ça que vous l'entendez aussi comme technologie?
LSD, ça signifie des choses différentes, à des ères différentes quand les gens le prenaient. Je dirais que quand j'ai pris mon LSD, c'était à la fin des années 70, c'était récréatif, mais pour les gens qui le prenaient à partir des années 60, ça semblait faire que toutes choses qu'ils entendaient sur la cybernétique et sur la conscience, que c'était vrai. Quand vous prenez du LSD, les choses semblaient reliées les unes aux autres. Et les gens de la contre-culture étaient véritablement à la poursuite d'idées du monde technologique des années 40 et des années 50, que nous sommes tous faits d'informations. Nous sommes tous issus de la même piscine, si vous voulez. Et le LSD semblait avérer ces choses-là, parce qu'on pouvait voir toutes ces connexions à travers vos hallucinations, qui étaient autrement invisibles.
Alors on voit justement les liens là, entre le LSD vécu comme une expérience politique, mais aussi la manière dont on va trouver des interactions avec la technologie. Et puis il y a Stewart Brand qui a amené justement un peu le LSD dans les laboratoires de Stanford. Pouvez-vous nous rappeler aussi qui est Stewart Brand pour celles et ceux qui l'entendent peut-être pour la première fois?
Stewart Brand
est un entrepreneur merveilleux. Il a créé avec sa femme Louise le catalogue du monde entier, The Whole World Catalog, un des ouvrages les plus importants de la contre-culture. Il a aidé à créer Quarterly Magazine et d'autres magazines. De mon point de vue, c'est vraiment un pont extrêmement important entre la contre-culture et le monde technologique. Donc c'est un membre de la société de San Francisco, il prend du LSD, il fait partie des groupes artistiques, mais c'est aussi quelqu'un qui va à Stanford, qui vit dans la baie de Stanford, et qui crée le... qui dirige le monde de l'intelligence artificielle, plutôt le laboratoire d'intelligence artificielle de Stanford, pour devenir un des laboratoires leaders dans le monde, dans le domaine de l'intelligence artificielle. La meilleure façon de comprendre Stewart Brand en tant qu'un... C'est un entrepreneur intellectuel. Il prend des gens de différents mondes, contre-culture, technique, et il les réunit. Ils commencent à parler un langage commun. Et soudain, les hippies qui n'ont rien à voir avec la technologie, disent « Ah ouais, bien sûr, le LSD, c'est une technologie, et moi, je suis un technicien. » Et donc, et les scientifiques de l'ordinateur qui semblaient travailler pour le gouvernement, eh bien maintenant, ce sont des entrepreneurs de la contre-culture.
Non, je vous en prie, non, mais c'est juste entrepreneur intellectuel. C'est vrai que chez nous, en France, c'est assez antinomique. Et on voit justement la particularité de Stewart Brand. D'ailleurs, Francesca Musiani, qui est dans la version de la contribution, justement, de cette, on va dire, florilège de contributions de chercheurs, parle d'un humain frontière. C'est ça, Stewart Brand aussi. C'est un humain frontière qui dépasse les frontières, qui fait des liens, qui fait des passerelles.
So Brand is exactly that. He is a human
exactement ça, Brand. C'est un humain frontière. Exactement, c'est ça. Il faut passer par lui, au-delà de lui, pour passer dans ces mondes différents.
Mais
c'est aussi un style qui fonctionne très bien pour faire des affaires dans le monde de la tech. C'est ça, la Silicon Valley. C'est un peu comme la vie intellectuelle française. Beaucoup de choses se font au dîner. Vous savez, les dîners sont plus brefs aux États-Unis, mais les dîners sont quand même importants.
Les dîners sont quand même importants, puis l'addition qui vient derrière aussi, peut-être aux États-Unis, puisque très vite on passe de l'idée à la manière dont on peut la concrétiser. On va passer aussi une frontière, nous, une frontière du son, pour écouter Stewart Brand qui nous parle du Walhurst Catalogue. Vous l'avez cité, c'est un ouvrage très important. Stewart Brand nous en parle.
I've been part of founding of a couple of communes and I visited a number of communes.
J'ai participé à la fondation de quelques communes et j'en ai visité un certain nombre. Elles essayaient de réinventer la civilisation, ce qui est audacieux et admirable. Mais elles le faisaient mal parce que les arts libéraux majeurs avaient été abandonnés. Et ils n'avaient aucune idée de comment faire, le jardin, la construction ou quoi que ce soit d'autre. Donc, mon objectif était d'essayer d'apporter, parce que j'ai été formé en tant que scientifique, en tant que biologiste, une sorte de respect pour la science, la technologie, l'ingénierie et la fabrication de choses à ce mouvement. Et tout le catalogue de la Terre, l'accès aux outils, était un effort pour rendre possibles les compétences nécessaires pour réinventer la civilisation.
Alors justement, dans ce World Health Catalog, on peut revenir d'ailleurs sur la photo de la Terre, parce qu'il y a une histoire justement derrière cette photo prise de loin, de très haut, vue d'en haut.
Yeah. So Stewart Brand had an idea.
Stewart Brand avait une idée qui venait de Buckminster Fuller. C'est un architecte du début du XXe siècle, un inventeur génial aux États-Unis. L'idée de Fuller était que nous, artistes, devrions devenir des artistes ingénieurs, prendre les technologies du mainstream et leur redonner un nouveau but pour la transformer. Brand a essayé de le faire avec des photos de la Terre prise par la NASA et l'agence spatiale des années 60. Il a essayé de les faire sortir de la NASA vers le monde le plus ouvert et nous les montrer. Et quand il a fait le Whole Earth Catalog, il a fait la même chose. Il a tenté de créer une façon pour que les produits de l'industrie générale soient visibles dans son catalogue et utiles pour les nouveaux pionniers qui construisaient ce qui pourrait devenir, à son avis, une nouvelle société.
Et là encore, je crois qu'il y a une histoire de LSD, hein, parce qu'il aurait eu l'inspiration, un éclair de génie de mettre justement cette photo de la Terre après avoir pris une certaine dose.
Oui,
il y a une histoire très connue sur Brand.
The acid made him do it. I think it's the other way around.
Dit que c'est l'acide qui lui a fait faire ces trucs-là. Je crois que c'est l'inverse.
He was tripping.
Il était bon. Il était sur un trip. Il a dit mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu une photo de la Terre? Et c'était à la fin de son du festival du LSD à New York en 66. Mais l'idée qu'il fallait prendre la technologie, la sortir de la mainstream et changer notre vision du monde, notre vision de la nature, eh bien, c'est avant qu'il ait pris du LSD. Le LSD, ça a servi de preuve pour prouver la vision de ce qu'il avait vu avant d'avoir pris du LSD.
C'est très clair. On voit que justement ce catalogue a inspiré de grands ingénieurs, entrepreneurs. On parle justement beaucoup de Steve Jobs, qui le cite dans nombreux de ses discours. Alors on ne sait pas s'il le cite avec authenticité, s'il a vraiment eu un lien très fort avec cet objet-là, ou si c'est une forme de storytelling. En tout cas, il y a déjà cette idée de réseau social. On parlait même d'une sorte de Google en papier par rapport à ce catalogue.
Yeah, so Steve Jobs and others
Steve Jobs
really have
et d'autres
talked about the Whole Earth Catalog
ont parlé
as a
de ce catalogue comme un prédécesseur de Google.
And in fact, the first
en fait,
engineer who worked
le premier
Amazon
ingénieur qui a travaillé pour Amazon
was working for the Whole Earth Catalog
a travaillé pour le Whole Earth Catalog avant. Donc il y a beaucoup de liens directs.
The thing that the Whole Earth Catalog
la chose
did was that it
que ce catalogue a fait, c'est que ça ne vous vendait pas des produits. Ça vous rendait possible d'acquérir ces outils et ces produits. Ça rendait visibles les réseaux, les lieux où vous pouviez voir ces choses-là. C'est comme Google, c'était un engin de recherche, un moteur de recherche en quelque sorte. L'autre chose que ça a fait, que c'est très important, c'est que ça a révélé les réseaux sociaux impliqués dans les communaux. Et donc, les produits sont rentrés dans le catalogue par recommandation de gens qui vivaient dans les communs.
Et c'est
68-69, il n'y avait aucune façon de savoir qui vivait dans une commune et qui ne vivait pas dans une commune. Et maintenant, dans le Whole Earth Catalog, on voit leur adresse. Ah, dans mon côté, il y a un commun. Oh, puis il y en a un autre ici. Donc c'est à la fois un réseau d'idées et de technologies, et aussi une cartographie des réseaux sociaux. Et tout cela est réuni aujourd'hui dans Google.
Et justement, c'était quoi le modèle économique du World Health Catalog, s'il y en avait un ? Puisque, effectivement, là, vous avez assez bien décrit Google, mais est-ce qu'il y avait un modèle économique ?
Non, c'est une question très importante. Dans le livre du World Health Catalog, avant l'Internet, le modèle était de réunir toutes les contributions des gens. On payait 10 dollars si la contribution était acceptée. On a réuni tout ça dans un livre et on vendait le livre. Et le bouquin s'est bien vendu, plus d'un million d'exemplaires en 4 ans. Mais la valeur était concentrée dans le livre. Une des choses que l'Internet a développées, les réseaux sociaux entre autres, c'est comment extraire la valeur des contributions sociales en temps réel, sans avoir à faire physiquement un livre. Et Google, c'est comme un catalogue Whole Earth, mais en temps réel, sans cesse, sans arrêt.
Sans arrêt, on voit bien justement comment ils captent justement cette valeur. C'est-à-dire que l'avantage de ce catalogue, c'est que il y avait sans doute une analyse de la contribution, il y avait un temps de réflexion, il y avait un choix, et ensuite c'était diffusé, il y avait vraiment un rôle de média. Or, on voit bien avec Google, qu'on est dans une désintermédiation un peu classique, qui fonde d'ailleurs le modèle économique des plateformes numériques.
Ça va très très vite aujourd'hui, bien sûr, mais il y a des intermédiaires, mais il faut le voir, il faut pouvoir le voir, c'est ça le défi. C'est pas simplement l'interface, mais c'est l'entreprise derrière. Et pour les auditeurs, je recommande une petite expérience. Google par exemple, sur votre ordinateur, faites quelque chose, faites une recherche sur Google sur votre ordinateur, allez chez un copain, faites la même recherche et regardez si vous avez le même résultat. Et la différence sera un produit de l'institution derrière votre écran et c'est ça qui est mis en avant par cette institution.
Évidemment, personne n'a le même Google, alors que tout le monde avait le même catalogue. Et c'était en cela où c'était justement un objet de communion, puisqu'on est sur la question des communs et des communautés. On continue justement à parcourir cette histoire de l'informatique avec Tiward Brain, qui est donc l'objet même de votre livre, hein, puisque vous arrivez de manière assez maligne à raconter l'histoire d'un homme sans que ça soit perçu comme une biographie, mais à travers son histoire, on voit l'histoire justement des technologies. Et il y a un autre moment clé de Tiward Brain, c'est son intérêt pour la culture hacker, où il va organiser pour la première fois une conférence de hackers dans une date très clé, une date symbolique, 1984.
1984 était une année incroyable. Apple a annoncé le Macintosh.
George Orwell, 1984.
Ça ne sera pas le 1984 d'Orwell, mais ça sera l'année de Apple.
Réalisé par Ridley Scott.
Ridley Scott, the book.
Oh yeah, exactly.
The film.
So, but for Stuart Brand, it was kind
of a bad
year.
C'était une mauvaise année au départ. Stuart Brand, Ken Kesey et d'autres hippies des années 60 étaient vraiment très tristes au début des années 80. Le monde qu'ils avaient promis de construire n'a jamais été construit. Les communaux s'étaient effondrés. Il n'y a que les autoritaires ou les communautés religieuses qui étaient restées. Et il y a eu une conférence juste avant l'événement dont on va parler. C'est qu'est-ce qui est arrivé à nos illusions ? Et quelqu'un a donné à Stuart Brand un Mac. Il n'avait pas utilisé, il n'avait jamais utilisé d'ordinateur précédemment. Il a un Macintosh, il se connecte à d'autres et un de ses amis, à ce moment-là, lui parle d'un livre sur une génération de hackers qui s'appelle Hacker. Le livre s'appelle Hackers.
Et
Brand fait la même chose qu'il a toujours faite. Il réunit toutes ces communautés de hackers, 3 générations de hackers, ensemble avec ses copains hippies. Et ils se réunissent pour un long week-end à San Francisco, dans un fort, un fortin, de façon très informelle. C'est Wozniak, Steve Wozniak d'Apple est là, et d'autres techies, mais des gens qui étaient très cool de la contre-culture. Et au début de la conférence,
ils disent aux hackers,
nous sommes des gens, des ordinateurs, on est là pour les business, et les hippies disent, ouais, comme ci, comme ça. Et à la fin de la conférence, le hacking, c'est comme une chose de la contre-culture, on est comme les hippies alors. Et les hippies disent, ouais, les ordinateurs, c'est comme le nouveau LSD. Et c'est quelque chose de très puissant. Les sociologues appellent ça un échange de légitimité. Lorsque deux communautés qui ont chacune leur propre légitimité se mettent ensemble et ils échangent leur légitimité. Maintenant, les scientifiques des ordinateurs sont cool, le hacking devient cool, et les hippies ont accès à l'argent, des emplois dans le monde de la technologie.
Voilà, c'est ça qui est fascinant justement avec ce rassemblement qui, encore une fois, fait venir de nombreuses communautés, de nombreux courants, et aussi la nouvelle droite américaine qui va commencer à s'intéresser aux technologies. Et c'est là où on va rentrer dans une forme de complexité aussi, entre les liens entre cette nouvelle droite et Stewart Brent. Un autre exemple, puisqu'on était en 1984, je vous emmène 5 ans plus tard, en 1989, avec cette phrase de Ronald Reagan qui dit « Le Goliath du totalitarisme sera abattu par le David de la puce électronique ». Donc quels sont les liens entre cette nouvelle droite et la technologie?
Merci d'avoir posé cette question. C'est quand mon livre a été publié, c'était mal lu en disant que les hippies nous ont apporté les ordinateurs et que tout va mieux depuis. Et ce que les gens oublient, c'est que le dernier tiers du bouquin, c'est sur ce problème, comment les idéaux de la contre-culture sont devenus disponibles pour la nouvelle droite. La nouvelle droite n'aimait pas l'amour libre de la contre-culture, n'aimait pas la drogue, mais ils ont mis l'accent sur la technologie, c'était vraiment partie intensive, partie prenante de la nouvelle droite. L'idée qu'on pouvait construire de nouvelles technologies et vraiment diriger le monde par la technologie, c'est quelque chose qui a vécu dans le complexe militaro-industriel, dans la Maison-Blanche de Ronald Reagan, tout autant que dans la contre-culture. Et c'était une surprise pour moi. Moi, j'ai toujours pensé que la contre-culture était à gauche. Mais c'est vrai seulement de la nouvelle gauche qui a fait de la politique pour changer la politique. La culture communaliste, quand elle a rejeté la politique, elle s'est tournée vers le business et la technologie, comme l'a fait la droite. Et pour cette raison, ils ont été très très attirés par Newt Gingrich, George Gilder, et Wired Magazine les a dépeints tous les deux.
Justement, vous parlez de Gingrich et tous les deux, entre cette contre-culture et cette nouvelle droite, ont quelque chose en commun, c'est aussi le rejet de l'État. Dans un sens, c'était justement un État autoritaire, centralisateur, qui permettait pas l'émancipation individuelle, et justement peut-être le LSD et autres que vous évoquez. Puis dans un autre, même si on voit bien que la frontière peut être proche, c'est aussi cet État qui régule, cet État qui casse la liberté d'entreprendre. Mais on voit que finalement, il y a un ennemi commun, un État qu'il faut abattre.
Yeah, so this is exactly right, that
the exactement ça. La nouvelle droite a embrassé une idéologie anti-étatique que la contre-culture partageait avec eux. La contre-culture, les rêves communalistes de la contre-culture, une société en dehors des règles, sur une conscience partagée, soutenue par la technologie et le business, est très très proche des idées de la nouvelle droite, une société libertarienne où c'est le marché qui dirige, la technologie qui dirige, et l'État doit être repoussé. Mais dans les deux cas, ici, on parle de quelque chose pour lequel les Américains n'ont pas de langue ou de mots. On parle de classe. Le monde communal des années 60, c'était quasi exclusivement de gens de la classe moyenne, de la classe supérieure, blancs, qui étaient passés par les facs. Et il n'y avait pas de langage pour parler de la pauvreté, de l'inégalité. Simplement, partageons les choses, soyons égaux. Ouais, d'accord. Mais pour la nouvelle droite, ça va. Si on a un monde de marché ouvert et d'individus pour la technologie et le business, donc les individus qui font le plus de blé, eh ben, ce sont les meilleurs. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de s'occuper des gens qui n'y arrivent pas?
This is where it all becomes radically unequal.
C'est là où on devient radicalement inégaux. Et vraiment, c'est la porte pour la droite la plus extrême.
Mais je trouve que c'est là où on touche un point très intéressant par rapport à notre lecture du numérique ici en France. Quand on prend un personnage comme Elon Musk, et on en parlera dans un instant, qu'on va pointer du doigt comme un libertarien, comme quelqu'un qui a dévoyé finalement l'utopie de l'Internet, qui a cassé la machine. Or, c'est plus complexe que ça, parce que tel que nous vous le racontez ici, dans cette contre-culture, dans cette fusion, dans ces points de convergence qu'on peut imaginer entre la contre-culture et cette nouvelle droite, ou une droite qui se veut libérée de toute contrainte, on se rend compte que finalement, Elon Musk, il incarne aussi cette histoire-là. Donc il incarne une certaine forme de contre-culture.
Elon Musk is unfortunately
Elon Musk est malheureusement un représentant des idéaux contre-culturels que nous n'avons pas compris à l'époque comme étant de la gauche politique. Ses idées, c'est cybernétique des années 50 et 60 dans ce sens-là. Il imagine que le monde est simplement un système ouvert d'échange d'informations, comme un marché ouvert. Et ce qu'il faut faire, c'est construire des systèmes comme Twitter, où toute la réglementation est enlevée, et on a le maximum de liberté pour parler. Le fantasme, c'est que les individus sont égaux, mais ils ne le sont pas. Les gens parlent avec des ressources totalement différentes. Si vous créez un monde avec d'individus qui parlent sans institutions, sans reconnaissance des inégalités, on crée un monde comme les communs, où des individus charismatiques saisissent le pouvoir. C'est une porte pour l'autoritarisme. Et les gens qui sont responsables comme Elon Musk vont vous dire, écoutez, moi j'ai laissé ça ouvert à tout le monde et moi je suis comme ça, c'est tout. Et ma réussite financière, c'est simplement une représentation de mon bien, de ma bonté interne. C'est une idée tellement américaine.
C'est pour ça que vous parlez justement des réseaux sociaux comme une sorte d'autoritarisme individuel. On va continuer à parler d'Elon Musk juste après la musique, car c'est le moment de la musique, Fred Turner, dans Le Meilleur du Monde. Une musique qu'on a choisie pour vous avec Grateful Dead, puisqu'on parlait justement de Stewart Brand, revient dans un groupe emblème de la contre-culture avec ce titre The Music Never Stopped. Mais ce que je vous propose, comme j'ai un mauvais anglais, c'est vous qui allez lancer la musique. Vous allez pouvoir dire, Fred Turner, vous êtes sur France Culture, et tout de suite on écoute Grateful Dead avec The Music Never Stop. Et vous êtes prêt à relever le défi de me faire un beau lancement sur une musique? Vous avez 12 secondes. Attention Camille, c'est parti. On lance l'intro.
Great. Well, you're listening to France Culture and we're going to listen to The Grateful Dead and tune on in.
All right, let's go.
There's mosquitoes on the river. Fish are rising up like birds. It's been hot for 7 weeks now, too hot to even speak now. Did you hear what I just heard? Say it might have been the fiddle, or it could have been the wind. But there seems to be a beat now, I can feel it in my feet now. Listen, here it comes again. And dizzy, Lord, the band kept us so busy. We forgot about the time. They're a band beyond description, like Jehovah's favorite choir. People join in hand in hand while the music plays the band. Lord, they're setting us on fire. Crazy rooster crowing midnight. Balls of lightning roll along. Old men sing about their dreams. Women laugh and children scream. And the band keeps playing on.
Keep on dancing through the daylight. Come on, clap your hands. Well, the cool breeze.
and the corn's a bumper crop, and the fields are full of dancing, full of singing and romancing. The music never stops.
The music never stopped, et pourtant parfois elle s'arrête. Cette musique des Grateful Dead, elle s'arrête pour mieux laisser place au journal.
Better, happier, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week.
Les nouvelles du meilleur des mondes, François Saltiel.
Et on ouvre ce journal par le palais de la Porte de Versailles, à Paris, où tous les princes de la tech mondiale se retrouvent à l'occasion de VivaTech, le salon des innovations et du futur. Et ce vendredi, à 16h, un roi aussi redouté qu'admiré a tenu tribune devant une cour de plus de 4000 personnes. Il s'agit d'Elon Musk, qui a fait son show en parlant autant de Twitter que de ses voitures Tesla. Et pour lui poser les questions qui ne fâchent pas, Maurice Lévy, en intervieweur, soit le patron du groupe Publicis et co-organisateur de l'événement. Elon Musk semble aimer la France. Il est déjà venu récemment à Versailles, cette fois-ci pour le salon Choose France. Enfin, plutôt, la France semble aimer Elon Musk. Le président Emmanuel Macron l'a rencontré une nouvelle fois juste avant son intervention à VivaTech et espère bien récupérer des usines de batteries Tesla sur le territoire en sucrant la priorité à l'Espagne, qui se positionne aussi sur ce créneau. Emmanuel Macron devrait évidemment, pour la forme, demander à Elon Musk de faire quelques efforts dans sa politique de modération et de respecter les prochaines réglementations européennes. Diplomatie classique, un peu comme avec d'autres princes, comme celui de l'Arabie Saoudite, vu le même jour, aujourd'hui, par le président. Il lui a sans doute parlé des droits de l'homme, mais il est surtout là pour faire des affaires. Similitude qui ne s'arrête pas là, puisque je vous rappelle que pour racheter Twitter l'année dernière, Elon Musk a pu compter sur les dons souverains du royaume d'Arabie Saoudite, dirigé par le prince héritier Mohamed Ben Salman. Entre Musk et MBS, quelle drôle de journée d'or et d'affaires pour Jupiter. Et on quitte les palais parisiens pour le Parlement européen, qui vient d'adopter le projet de régulation de l'intelligence artificielle pour tenter d'en éviter les dérives, notamment sur la récente question des IA génératives. C'est toute la difficulté de ce texte juridique qui court derrière les innovations technologiques en ayant toujours 2 trains de retard. La réglementation impose plus de contrôle humain sur la machine, une transparence technique et un système de gestion du risque, le tout contrôlé par des autorités de surveillance propres dans chaque pays membre. Mais encore faut-il s'accorder. Les eurodéputés veulent par exemple supprimer les dérogations pour autoriser la reconnaissance faciale à distance dans l'espace public, alors que certains États, dont la France, espèrent bien pouvoir développer la reconnaissance faciale pour lutter contre le terrorisme. Le Sénat vient d'ailleurs, toujours cette semaine, de voter pour des expérimentations de cette surveillance dans ce cas de figure. Là encore, les textes européens semblent à rebours d'une volonté industrio-policière qui prend chaque jour un peu plus d'ampleur. Et on termine par une rencontre, celle d'un garçon dans le vent et d'une technologie dans l'air du temps, à savoir Paul McCartney, qui annonce la sortie d'un nouveau titre des Beatles réalisé à l'aide d'une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle utilisée pour faire renaître la voix de John Lennon d'une ancienne maquette. La BBC croit savoir qu'il s'agirait d'un titre inachevé de 1978, Now and Then. McCartney est hyper enthousiaste, alors que le monde de la musique s'inquiète des dérives de l'intelligence artificielle dans l'industrie musicale. On ne pourra jamais savoir ce que John Lennon aurait pensé de ce déterrage, mais il est certain qu'il s'agit d'un titre posthume non consenti. Et j'imagine que comme lui, vous êtes bien dans le meilleur des mondes.
Yes, alright.
Welcome to the brave new world.
Et nous sommes toujours en compagnie de Fred Turner, le penseur critique de la Silicon Valley, qui s'en est extrait pour venir ici, à Paris, dans les studios du meilleur des mondes, et partager son point de vue, son analyse rare. Et nous sommes très heureux de l'avoir. Peut-être une réaction, Fred Turner, par rapport à ce petit journal de la semaine que vous venez d'entendre?
C'est fascinant que Musk soit à Versailles.
You know, at Versailles, you know, Louis, vous savez, tried to display
Louis
his specialness
a tenté
by building an architecture around himself.
Montrer son côté Elon, exceptionnel en construisant ce lieu sublime. Elon Musk, lui,
Elon Musk does something very different.
A fait quelque chose de totalement différent.
He tries to say,
il essaie de dire,
person,
moi, je suis quelqu'un de très spécial et je vais faire arriver des technologies que vous n'avez jamais vues.
That are invisible to you.
Je vais vous montrer des pouvoirs qui vous sont invisibles.
And I will send rockets
et
to
je vais
Mars
envoyer des fusées sur la planète Mars pour sauver la race humaine de la même
manière
que Louis XIV voulait sauver la France.
So, I suppose it's appropriate.
Et je pense que you know, c'est pertinent.
It's so interesting. We are, I'll say one more thing.
Je voudrais dire une chose
we
de plus. On est toujours englués en Californie
kind of
dans une sorte de célébration
leaders.
Des leaders charismatiques.
And if Musk and Macron
si Musk et Macron
lean on charisma,
then jouent sur le charisme, ben c'est notre boulot de leur rappeler des systèmes qu'ils servent et des gens qu'ils servent
and the systems on which power
et des systèmes sur lesquels le pouvoir se repose.
Alors, vous avez évoqué de Versailles, vous avez raison, il était à Versailles lors du salon de Choose France et à la porte de Versailles pour Vivatech. Et là, vous évoquez justement le charisme, ce qui fait qu'on joue sur cette capacité à être entendu. Il y a ceux qui sont entendus et ceux qui ne le sont pas. Ça reprend votre idée tout à l'heure sur les inégalités qui persistent au sein d'un réseau social qui se veut justement comme étant la voix des sans-voix, qui laisse planer cette idée que chacun peut parler à sa juste mesure. Or, on voit bien qu'il y a des inégalités qui subsistent au cours de ce réseau social. Et vous dites que c'est notre devoir justement d'arriver à pointer toutes ces dérives, devoir en tant que citoyen, en tant que chercheur et peut-être même un devoir étatique. Quel est votre point de vue sur le rôle que l'État doit ou devrait jouer lorsqu'on est en plein débat par rapport aux thématiques de la régulation et aussi à l'échelle européenne ?
Un des fantasmes de la contre-culture qui hante toujours le monde tech et la gauche, c'est le fantasme qu'en augmentant la capacité d'expression personnelle, on va accroître la démocratie. La démocratie ne réside pas simplement dans la capacité de crier son point de vue au coin des rues. Ça réside dans les institutions représentatives qui rendent possible de négocier les désaccords, de partager les ressources à travers les communautés qui ne sont pas d'accord les unes avec les autres. Et de ce point de vue, l'État est la seule possibilité.
Twitter, Facebook,
Musk et Zuckerberg vont vous dire
Écoutez, il n'y a pas de problème.
Ce qui est important, c'est que chacun puisse parler. Les biens matériels ne sont pas importants. Et la liberté d'expression, c'est là-dessus que dépend la démocratie.
Mais
si tout le monde peut parler dans un monde d'inégalité radicale, la démocratie va disparaître rapidement, elle va s'effondrer. Le rôle de l'État est de reconnaître que les réseaux sociaux sont une nouvelle espèce de minage, comme miner ou faire des recherches et extraire du pétrole, du charbon, et ça change le paysage. C'est exactement la même chose. Les gens de la Silicon Valley vont vous dire qu'ils sont spéciaux, qu'ils sont magiques, et que c'est pas comme aucune autre industrie. Non, non, ils vont dire à l'État, non, vous devez pas nous réguler, nous réglementer, pas du tout. Mais en fait, Facebook et Twitter sont des opérations de minage social qui rentrent dans des biens qui vivent, des biens sociaux qui sont présents à travers le monde et qui produisent des produits sociaux dont la plupart sont dangereux et délétères. Et c'est le boulot de l'État de réglementer au nom des gens qui ne sont pas représentés par les entreprises et les technologies qui prétendent les représenter.
If Elon Musk has
si
his way,
Elon Musk le fait à sa manière,
the old commune horror
la vieille horreur des communaux,
without institutions,
d'une horreur sans, d'un monde sans institutions, sans règles,
will repeat itself.
Va se répéter. Et c'était un monde... C'était un monde où les individus charismatiques régnaient et les gens avaient des vies très difficiles. Nous ne voulons pas une Amérique communale. Et si vous allez sur le Twitter d'Elon Musk, vous allez voir que ça commence à se produire.
Twitter, has become a kind
Twitter
of
est devenu une sorte d'enfer technologique.
It's like, oh, go ahead.
Non, c'est, je reviens parce que je trouve que c'est très intéressant d'arriver à comparer justement le social comme étant une ressource comme l'eau, comme l'air, donc un commun, et que ce commun peut pas être livré aux mains d'intérêts uniquement individuels et d'un seul homme qui pourrait puiser dans ce commun et donc le dénaturer. Donc c'est très intéressant d'imaginer ce social comme étant, le matérialiser finalement comme étant un commun, et on comprend un peu mieux les dangers fascistes presque de cette captation justement de cette commun. Qu'en est-il, puisque vous parlez justement de vision un peu radicale, d'un néo-communalisme d'extrême droite qui existe aussi en ligne aujourd'hui ?
Absolutely. I think we live at a time.
Nous vivons à un moment où les termes de pouvoir politique sont en train de changer.
On the right, you see people
à droite, vous voyez des gens comme
Donald
Trump ou Elon Musk ou Palantir. Qui disent, qui prétendent que la liberté individuelle, c'est la source du pouvoir et que c'est bon. Mais ce pourquoi ils militent, c'est une société de radicalisation individualiste. Si vous détachez les individus des institutions, vous les laissez seuls, vous les rendez vulnérables à un leadership charismatique qui vient du haut.
And that's how we get to fascism.
Et c'est comme ça qu'on arrive très rapidement au fascisme.
One other thought.
Une des réflexions. On imagine souvent le fascisme en termes du fascisme du passé, les nazis, le fascisme italien, des grandes manifestations, des technologies massives. Non, on est vraiment en difficulté d'imaginer que l'autoritarisme pourrait venir des moteurs de la contre-culture de l'individualisation.
And that's where we're headed.
Et c'est là, c'est vers là que l'on va, et ça, c'est terrifiant.
Alors effectivement, c'est terrifiant, c'est une vision assez pessimiste. D'ailleurs, je lisais dans une de vos interviews qu'à une époque, vos étudiants vous trouvaient un peu trop optimiste, et maintenant, pessimiste, il y a une inversion de valeur. Mais ça me fait penser à quelque chose d'optimiste, tiens, de positif par rapport à cette individualisation. Il y a aussi un phénomène qu'on observe récemment aux États-Unis, où les individus vont se regrouper ensemble pour monter des syndicats, et à travers des syndicats, combattre la puissance des GAFAM. C'est un mouvement récent, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur cette question-là.
À New York, les employés d'Amazon ont trouvé leur champ de la victoire. En avril, les salariés de l'entrepôt JFK 8 ont voté pour la création d'un syndicat. Une première historique aux États-Unis depuis qu'Amazon a été créé, il y a 28 ans. Avec son look de rappeur, Chris Mulls est à l'origine du mouvement.
Vous savez, quand les gens s'unissent, ce sont eux qui ont le pouvoir. Les entreprises ont beau avoir l'argent, nous, les gens normaux, on leur a montré qu'on pouvait les battre. Et une fois encore, si on n'obtient pas ce qu'on veut, on fera grève.
Comme en 2020, quand l'employé d'Amazon organise un débrayage dans son entrepôt pour améliorer les conditions de sécurité. Amazon avait aussitôt écrasé la contestation et renvoyé l'employé. Mais une fois au chômage, Chris Mulls décide de prendre sa revanche. Il organise une campagne pour créer un syndicat et contre toute attente, il gagne. Les employés osent réclamer de meilleurs salaires et des conditions de travail plus sûres.
Fred Turner, je le rappelle, vous vivez dans la Silicon Valley, vous êtes au cœur de toutes ces mutations. On a vu ce mouvement de syndicalisme à l'intérieur des GAFAM, c'est pas forcément dans la culture, dans la tradition justement du travail et des employés au sein de ces entreprises comme Amazon, comme Starbucks et d'autres. Comment on peut le lire, ce phénomène-là ?
I'm absolutely thrilled that we are seeing a resurgence.
Je suis enchanté de voir une résurgence du syndicalisme à travers le monde de la tech. Je pense que nous nous réveillons tous sur la façon dont l'industrie de la tech n'est pas unique, mais déploie beaucoup des vieilles techniques de gestion du personnel de l'ère industrielle. Elles ne doivent pas avoir le droit d'abuser de leurs employés. Ça nous a pris 120 ans aux États-Unis pour avoir la journée de 8 heures et la semaine de 5 jours. Ça nous prendra probablement autant de temps pour pouvoir gérer correctement notre expérience des médias numérique. Je pense que les syndicats qu'on voit maintenant sont simplement le haut de l'iceberg. On en verra beaucoup plus. Et je suis très heureux de cela.
Je rappelle aussi que vous aviez sorti un autre livre qui a été publié toujours chez le même éditeur CF en France, qui s'appelait Visage, où à travers des textes et puis beaucoup de photographies, on voyait justement ces gens de l'ombre de la Silicon Valley, qui sont sans doute une partie de ces gens-là qui aujourd'hui manifestent et se regroupent pour essayer de modifier et de faire changer leurs conditions de travail, face à cet élitisme spirituel tel que vous le convoquez.
It's interesting, you know, the book Visages de la Silicon Valley.
Visage de la Silicon Valley dépeint des gens de la classe ouvrière dans la Silicon Valley. Il a été publié en France et c'est deux ans avant qu'un éditeur américain n'ose le publier. Parce qu'ils ont dit, ah, mais c'est pas la Silicon Valley, ça. La Silicon Valley, c'est Steve Jobs, c'est Elon Musk. Ça, ce sont des gens normaux. Mais là, c'est des pauvres. Que font les pauvres à la Silicon Valley? Ouais. Le marketing a fait un tellement bon travail en montant la visibilité des pauvres que maintenant il faut s'en occuper. Je pense que la chose qui est faite sur les gens de la Silicon Valley qui travaillent là-bas, sur le tiers inférieur, et ils sont devenus aussi des gens qu'on peut rejeter, des gens qu'on peut jeter. Des gens qu'on peut licencier. Et on regarde maintenant pas simplement les gens du service et les gens qui travaillent dans l'encodage. Ça, c'est très important. Ça peut les toucher aussi et s'en rendre compte maintenant. Facebook a fait beaucoup de travail, par exemple, pour essayer de convaincre ces codeurs que c'est des artistes, les artistes du code. Ils sont des créateurs, sont les gens qui vont au Burning Man Festival. C'est pas des gens qui travaillent toute la nuit.
Ils parlent de,
on va faire du hacking. Viens travailler pendant 24 heures, tu seras tellement créatif. La dernière fois que mon patron m'a demandé de travailler pendant 24 heures, moi j'ai quitté mon boulot. Mais si on peut recaractériser, avoir du plaisir dans le hacking en tant qu'expression créatrice, ben c'est fabuleux ça.
Eh bien elle aussi, elle travaille 24 heures sur 24 pour le meilleur des mondes. Mais elle en a un plaisir, elle en prend du plaisir. C'est Juliette Devaux qui nous a rejoint dans notre studio. Bonsoir Juliette.
Bonsoir François.
Alors, dans Retour d'Utopie, Francesca Musiani questionne la vision occidentalocentrée de l'histoire des technologies.
Oui, et SIG est un pays dont la dimension numérique a été largement minimisée dans l'histoire d'Internet racontée depuis les États-Unis, c'est bien l'Inde. Loin de l'image d'un territoire coupé du tumulte technologique permettant à des entrepreneurs comme Steve Jobs de se ressourcer pour mieux innover, l'Inde a au contraire développé un lien étroit avec le numérique et dispose aujourd'hui d'un écosystème parfaitement structuré.
Mais alors comment on peut expliquer une telle invisibilisation dans l'histoire du numérique ?
Pour le comprendre, il faut revenir un instant sur l'histoire du numérique en Inde. Le secteur des nouvelles technologies dans le pays s'est structuré à partir des années 70, en réponse à la demande de main-d'œuvre hautement qualifiée et peu chère d'entreprises étrangères. Ces entreprises, comme Accenture ou Capgemini, se sont ainsi installées en Inde et ont employé des milliers d'ingénieurs pour concevoir des produits à destination du marché européen et américain. En devenant l'usine logicielle du monde, le rôle de l'Inde a été largement minimisé, voire sciemment occulté dans l'histoire des success stories des entreprises numériques. Mais ce temps semble révolu. Le pays se numérise rapidement et les ingénieurs sont désormais nombreux à s'installer dans leur pays pour monter leur entreprise. Un revirement que l'on doit à l'impulsion du gouvernement indien qui déploie depuis 2015 une politique du numérique ambitieuse à travers un programme Digital India. Derrière ce programme, des objectifs économiques bien sûr, mais aussi la volonté de proposer un numérique alternatif, ouvert, open source et au service de la démocratie. Écoutez d'ailleurs le Premier ministre Narendra Modi au dialogue de Sydney en 2021.
Aujourd'hui, nous avons offert gratuitement notre plateforme Cowin au monde entier. Et nous en avons fait un logiciel open source. La vaste extension de l'Inde en matière d'utilisation de la technologie et de politique en faveur du bien public, du développement inclusif et de l'autonomisation sociale peut grandement aider le monde en développement.
Cette conception démocratique du numérique se traduit concrètement par la mise en place par l'État d'une plateforme intitulée India Stack, présentant un ensemble d'outils accessibles entièrement en open source pour inciter chacun, acteur public comme acteur privé, à proposer des applications du numérique utiles à la communauté. Un des exemples les plus fructueux de cette plateforme est un système de paiement instantané mis en place par l'État, aujourd'hui utilisé par plus de 200 millions d'utilisateurs indiens et exporté depuis peu au Népal. Si on perçoit sans difficulté l'intérêt en termes de soft power pour l'Inde de se présenter à travers cette politique numérique comme un leader démocratique mondial, il n'en reste pas moins que ce numérique en construction semble rompre avec le numérique individualiste et disruptif hérité de l'histoire américaine. Une manière de rappeler que l'histoire de la technique est toujours une affaire culturelle et d'insister sur la pertinence de décentrer le regard.
Merci beaucoup Juliette Devaux pour votre chronique et puis pour cette volonté de décentrer son regard, cette volonté aussi de s'extraire de la Silicon Valley. On dit beaucoup que les gens de la Silicon Valley on la quitte rarement et qu'ils vivent dans un monde comme si c'était un monde en soi et qu'ils avaient parfois du mal à s'en extraire. Pourtant Fred Turner, où est-ce qu'elle est la nouvelle Silicon Valley? Alors on a parlé de parfois de Séoul, de la Corée du Sud, on essaye de l'imaginer parfois un peu en Afrique, mais l'Inde semble un modèle assez intéressant et semble une vision assez intéressante du numérique.
L'Inde a beaucoup de pouvoir par rapport à la Silicon Valley. Et aussi Shenzhen en Chine, c'est un environnement le plus innovant de la Terre. Mais je pense que le cas indien est intéressant tout autant que le chinois, en raison des tensions entre des motifs de développement prétendument démocratiques et puis un style autoritaire du gouvernement. Et les technologies peuvent être utilisées des deux manières. L'Inde a été pionnière dans un système de surveillance numérique et très très puissant, en plus que ils ont développé une plateforme ouverte, open source, et à Silicon Valley, une plateforme open source, eh bien, c'est une très très bonne façon de capturer des parts de marché. L'open source, c'est pas simplement de laisser tout le monde jouer avec les codes, c'est une façon de demander que chacun d'entre vous rentre sur ce marché. Donc quand je vois cette discussion en Inde, j'apprécie le fait que les outils sont rendus disponibles aux gens. Mais je vois aussi une vieille rengaine de la Silicon Valley. Et la rengaine de la Silicon Valley, c'est offrir la distribution d'outils. C'est une façon de démocratiser la société. Tout le monde aura un accès égal, semblable. Et construire de nouvelles technologies, c'est une façon de construire une Inde démocratique. Certaines personnes pourraient dire que construire une Inde démocratique, ça signifie de permettre aux groupes religieux différents il y a des groupes ethniques différents, d'avoir un pouvoir étatique aussi. De choses que Modi n'est pas très prêt à faire.
Ça nous amusait aussi, merci pour cette analyse qui corrobore justement la chronique de Juliette. Ça nous amusait de terminer par l'Inde, quand on a à peu près commencé presque par l'Inde, puisqu'on évoquait Steve Jobs et puis aussi ses voyages dans les années 70 où on partait là-bas pour essayer de s'inspirer. On partait en voyage initiatique, parfois même dans une forme d'utopie. Et c'est bien cette utopie que j'aimerais terminer avec vous, Fred Turner, ce meilleur des mondes. Allez où l'utopie aujourd'hui? Quels sont ses fondements? Quels sont ses fondements artistiques? Comment on arrive à réenchanter justement Internet? Quelle est votre vision là-dessus? Quelle serait pour vous l'utopie? Comment revenir aux sources de cette utopie en 2023? Ou d'une nouvelle utopie?
Je vais croire que je vais froisser les oreilles de beaucoup d'auditeurs. J'écris beaucoup sur les utopies, et plus j'en lis sur les utopies, j'étudie les utopies, plus je cesse de croire qu'ils existent. Il n'y a jamais eu un Internet utopique. Il y a eu des histoires sur la façon dont l'Internet pourrait rendre l'Amérique utopique possible, mais ça a toujours été que des récits, que des histoires. Donc on ne peut pas revenir à une utopie qui n'a jamais existé.
Je suis d'accord avec vous, pardon. Je suis entièrement d'accord avec vous et je voulais pas du tout terminer sur cette histoire puisque justement tout au long de l'émission on a réussi à déconstruire beaucoup de choses. Mais l'intérêt d'une utopie c'est que c'est un récit. Même si elle n'existe pas, c'est un récit qui peut être performatif. C'est pour ça que je parlais d'un enchantement. On a connu dans le numérique un enchantement. On est maintenant dans une lecture critique. Donc comment on réenchante? Comment on réinvente un récit? Même si j'ai bien compris que ce récit ne serait pas forcément réel.
Let's not reinvent the narrative of individual expression.
Eh bien, ne parlons pas de réinventer le narratif de l'expression individuelle, mais du bien commun et de la façon de le soutenir.
Et ben voilà, c'est sur cette dernière idée de bien commun que nous allons nous quitter. Bravo Fred Turner, on voit que vous êtes un homme de format car il ne restait que quelques secondes, l'occasion de remercier toutes celles et ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Juliette Deveau, comme d'habitude, Héloïse Robert, notre stagiaire à la réalisation, Camille Mathy, à la technique ce soir d'Alia et à la vidéo, Antoine Tropé. Merci beaucoup Fred Turner d'être venu dans le meilleur des mondes. Je rappelle donc votre ouvrage paru aux éditions CF, aux sources de l'utopie numérique, de la contre-culture à la cyberculture, et donc cette nouvelle édition de chercheurs qui ont livrer leur analyse sur la manière dont vous avez influencé leur travail. Merci à Michel Zlotowski qui a assuré la traduction ce soir et qui m'a permis de bien comprendre les idées de Fred Turner. Le meilleur des mondes, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine.